Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Amis auditeurs, nous sommes le vendredi 10 décembre 2021 et c'est la 52e de Culture 5. Il ne s'agit pas aujourd'hui de fêter un quelconque anniversaire, ni de procéder à une quelconque célébration. Non, il est temps pour moi de réparer un oubli qui empêche mon âme d'être en paix et mes doigts de pied en éventail. Et plutôt que de chercher des excuses plates ou des explications oiseuses, je m'en vais réparer cette étourderie en vous proposant enfin la visite guidée de Culture 5. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, Culture 5 se renouvelle chaque semaine, enchâssé calé dans son écrin de podcast natif, en français de balado-diffusion originale. Il s'agit d'un bâtiment qu'aucun architecte DPLG, diplômé par le gouvernement, n'aurait pu imaginer puisqu'il est à géométrie variable et s'inscrit dans un cadre spatio-temporel évolutif. Ce bâtiment est constitué de cellules aux dimensions constantes occupées par des chroniques de qualité variée afin de satisfaire au mieux les goûts éclectiques de nos auditeurs. Dans cette ruche de création sonore, ne cherchez pas la chambre de la reine. Elle n'existe pas puisque ces chroniques se renouvellent selon les principes préscientifiques de la génération spontanée. Ainsi, elles naissent ou disparaissent au hasard des inspirations plus ou moins délirantes des détenus, je veux dire des chroniqueurs. Une précision avant la visite, les cellules n'occupent pas toujours la même place dans cet édifice polymorphe. Il est donc conseillé de ne pas rater le premier niveau introductif si l'on ne veut pas se perdre dans le dédale mouvant de ces créations aléatoires. Au rez-de-chaussée, vous trouverez donc, en général, la chronique éditoriale de votre serviteur. Vous serez alors au premier niveau du bâtiment et de l'art littéraire. Il vous sera alors délivré un plan général de l'édifice, plan que vous pourrez suivre ou pas. Ainsi, vous pouvez allègrement faire l'impasse du rez-de-chaussée, c'est à votre discrétion, et vous projeter directement dans la cellule de votre choix, arrêter là votre visite, et ce serait dommage, ou bagnauder d'une cellule à l'autre au gré de vos humeurs et du temps dont vous disposez. Je précise que le niveau de chaque cellule est particulier à chacun d'entre vous. Pour les uns, telle cellule se situera dans le grenier au trésor, alors que pour d'autres, il faudra descendre dans la cave à la découverte de crus millésimés. Voilà pour la présentation de Culture 5. Il me reste à vous remercier tous et toutes, et je vous propose maintenant d'entamer la visite. Ah, j'oubliais, en cas de perte de repères ou de difficultés ambulatoires, contactez William, notre maître d'œuvre NDPLG, non diplômé par le gouvernement. Mais si vous êtes satisfait de cette visite, envoyez vos dons à balado-gazette.fr. Au menu aujourd'hui, nous aurons le point de vue d'Hélène Delalande et sa vision sur l'obsolescence de nos monuments contemporains. Ensuite, Hervé Richoux nous proposera un voyage initiatique grâce à son itinéraire sur la carte du Tendre. Et enfin, nous ouvrirons les grilles de lecture de Dominique Scandella pour faire connaissance avec Olivier de Serres. Mais tout de suite, et dans la continuité de son intervention du 3 décembre dernier, c'est Johan Lefebvre et sa capsule de jazz. Bonjour Johan Lefebvre.
Bonjour Bernard.
La dernière fois qu'on s'est vu, vous nous parliez de trois interprétations de Porgy and Bess, l'œuvre de George Gershwin. Vous allez nous resituer ça, les trois versions les plus connues de Porgy and Bess, en nous faisant apprécier les unes et les autres, les unes par rapport aux autres. Y a-t-il une progression? Y a-t-il une différence de style? Enfin bon. Vous avez quartier libre, on vous écoute.
Merci, en effet, Porgy and Bess, cette œuvre composée par George Gershwin en 1935, a été reprise deux fois dans les années 58-59, et puis une autre fois dans les années 80 par des grands orchestres de jazz, puisque c'est ça qui nous intéresse. D'autres jazzmen en ont fait des versions plus réduites. Nous, on s'est vraiment appuyé sur les versions en grand orchestre. La première musique dont je voulais vous parler, c'est cette musique qui a été un album qui est sorti en 58-59 et qui a été une version enregistrée par les grands jazzmen de l'époque qui s'appelait Louis Armstrong, trompettiste, chanteur de la Nouvelle-Orléans, père du jazz, on peut dire que ça a été le premier jazzman très très connu dans le monde entier, Louis Armstrong. Il a même fait des tournées
populaires
et il a même servi le département américain de la culture et de la diplomatie pour aller faire des tournées en Afrique pour pouvoir peut-être avoir des contrats avec c'était vraiment quelqu'un qui était très très populaire à l'époque.
On n'est pas loin du business. Et justement, à propos de business,
Louis Armstrong et Ella Fitzgerald ne sont pas les concepteurs de cet album. Derrière cet album Porgy and Bess, il y a le grand producteur de jazz Norman Granz qui à l'époque aidait beaucoup les jazzmen puisqu'il créait des événements en rassemblant les plus grands jazzmen de l'époque. Mais on n'était pas loin du côté commercial de la chose parce que en fait, c'était pas une pensée créative, mais plutôt d'utiliser les jazzmen pour vulgariser le jazz dans les théâtres, en tournée, dans tous les États-Unis. Cette version n'est vraiment pas loin de la version originale, et le fait que Louis Armstrong et Ella Fitzgerald fassent partie de l'aventure, commercialement, ça avait beaucoup de sens, puisque c'était deux voix hors du commun à l'époque. Pour autant, cette version, c'est un orchestre symphonique, c'est un big band, comme dans la première version de Monsieur Gershwin en 1935, lorsque l'œuvre était jouée dans les théâtres à Broadway. La seule différence, c'est les interventions magiques de la trompette de Louis Armstrong, c'est la voix tout à fait exceptionnelle et la créativité d'Ella Fitzgerald qui arrive à improviser des mélodies supplémentaires avec des paroles. C'était la reine à l'époque pour faire ça. Et puis, cette voix très rauque de Louis Armstrong apporte une chaleur à l'œuvre.
Elle est commerciale, mais elle n'est pas nulle pour autant.
Elle est très très bien écrite. L'arrangeur et chef d'orchestre Russell Garcia s'est vraiment emparé de l'œuvre. Très très bien écrite, mais elle est écrite de façon classique. C'est-à-dire à la fois classique dans l'arrangement jazz et musique classique, avec un très long, je crois que ça dure 10 minutes l'ouverture, où, comme dans la musique classique, on passe par tous les thèmes qui seront joués un peu après, sans les développer. C'est-à-dire qu'on entend Summertime, plusieurs chansons de Porgy and Bess, qui sont résumées dans cette ouverture de 10 minutes. D'accord. Et ensuite, on rentre dans l'œuvre, et les chanteurs, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, interviennent à ce moment-là. Yes, I got plenty of nothing. And nothing's waiting for me. Oh, got no call, got no mule, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob 'em while there's out making more. What for? I got no lock on the door. That's no way to be. They can steal the rug from the floor. That's okay with me, 'cause the things that I'll prize, like the stars in the skies, all free. Yes, I've got plenty of nothing, and nothing's a plenty for me. Oh, got my gal, got my song, got heaven all day long. Got my gal, got my love. Yes, got my song.
Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Away. heart held till the time arrived. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man.
C'était un extrait de Porgy and Bess chanté par Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Le moment est maintenant venu d'écouter la chronique d'Hélène Delalande, une chronique à deux voix.
Soldats, sachez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent, clamait Bonaparte à ses troupes pendant la campagne d'Égypte.
Mais que pourront clamer les futures générations, disons dans 1000 ans, ma chère Hélène ?
Faisons l'état des lieux de ce que nous a légué notre passé. La liste est longue et certainement pas exhaustive pour ce qui concerne ne serait-ce que quelques monuments de notre territoire. Les grottes de Lascaux, le pont du Gard, Chambord, le Louvre, le Paris haussmannien et tant de bijoux disséminés dans les villes et les campagnes.
Mais pour ce qui concerne l'époque contemporaine...
Ouh, là, il y a de quoi s'interroger sur la lecture archéologique de nos vestiges. Par exemple, le cénotaphe de Joséphine Baker vient de franchir la porte du Panthéon. Qu'est-ce qu'un cénotaphe si ce n'est un tombeau vide ? En effet, sa famille a préféré ne pas violer sa tombe et a choisi quelques pelletées de terre prélevées dans différents lieux qui ont marqué sa vie. Je ne peux m'empêcher d'imaginer l'étonnement de quelques hypothétiques archéologues dans bien, bien longtemps.
Mais comment interpréter un tombeau rempli de terre ?
C'est là que me revient en mémoire le pseudo-documentaire « Le motel et ses mystères » de l'auteur-dessinateur David Macaulay. Cette fiction racontait la démarche d'investigation de chercheurs censé fouiller les vestiges d'un ancien motel américain en 4024. Persuadé qu'il se trouvait sur un site d'une extrême importance, il ne pouvait que lui donner une valeur sacrée. Ainsi, le motel était, selon eux, les vestiges d'un temple voué à je ne sais quelle divinité. De là quelques interprétations du plus haut comique. Vous savez, la lunette des toilettes était élevée au statut de pectoral. Vous savez, c'est le collier que revêtaient solennellement les prêtres incas. Et la balayette ? Elle était métamorphosée en goupillon pour bénir les foules de fidèles prosternés à leurs pieds. Les longs couloirs, reconvertis en déambulatoires pour les démarches votives. À vous de deviner ce que pouvait être l'urne sacrée, le parchemin sacré. Et les orgues aquatiques, l'imagination est au pouvoir.
Mais pour en revenir à l'époque contemporaine, que laissera-t-elle comme trace ?
Comment ne pas être impressionné par les constructions que conçoivent les architectes de nos jours ? Mais que l'on soit à Dubaï, à Shanghai, à Paris ou à Londres, partout elles se ressemblent toutes. Pour ne prendre qu'un exemple, les quelques réalisations bâties très récemment autour du périphérique parisien, notamment près de la porte de Bercy. Des prodiges, véritables défis à l'équilibre. Ni lignes horizontales ou verticales, tous les volumes sont en quasi-suspension. Faites pour la plupart de verre et de métal, quel sera le devenir de ces constructions ? Si elles sont inscrites dans la logique de l'obsolescence programmée, elles sont bien au goût du jour.
Alors finalement, que va-t-il rester de notre passage ? Ma chère Hélène, vous m'angoissez.
Mais ne soyez pas inquiet, Bernard. Heureusement, nous produisons des déchets plastiques. Indestructibles, ceux-là. C'est l'âge des humains, celui d'un désordre planétaire inédit. Nous avons donné naissance à un sixième continent et sommes désormais dans l'ère de l'Anthropocène.
On a eu chaud.
Ben vous pensez pas si bien dire.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
C'était Charles Trenet, bien sûr. On va rester dans cette ambiance tendre et nostalgique avec Hervé Richoux et son itinéraire. Enfin, laissons-nous guider.
Drôlement content, Aristide, aujourd'hui au volant de sa voiture hybride sur l'autoroute A75 en direction de Montpellier. Il a passé Clermont-Ferrand et franchi sans contrariété le col de la Fajolle, dont l'altitude approche les 1100 mètres. Une des plus hautes autoroutes d'Europe, qui plus est, gratuite. Il a marqué une longue pause pour admirer le viaduc de Millau, chef-d'œuvre de cette architecture qui magnifie la beauté de la nature et qui relie les hommes, tout un symbole. Drôlement content, Aristide, au volant de sa voiture hybride, a les yeux qui clignotent quand il emprunte la sortie vers Florac, traversée par le Tarnon. Florac, à la porte des Cévennes, au pied du Causse Méjean, et là où se déverse la source du péché. Aucun risque de se perdre, puisque son GPS lui indique de sa voix, qu'il a programmée féminine, au rond-point, prenez la deuxième sortie, nationale 88. Mais Aristide se perd quand même, malgré la voix féminine du GPS de sa voiture hybride, et quand il passe pour la troisième fois devant l'auberge du Vieux Pont, il finit par sortir la bonne vieille carte Michelin au pli. Je reprends. Mais Aristide se perd quand même, malgré la voix féminine du GPS de sa voiture hybride, et quand il passe pour la troisième fois devant l'auberge du Vieux Pont, il finit par sortir la bonne vieille carte Michelin au pli capricieux. Aux autoroutes bleues comme des fleuves qui vont à la mer, aux routes nationales toutes rouges de confusion de provoquer des bouchons, aux départementales jaunes qui serpentent tortueuses et s'égarent dans ces parcs naturels et régionaux, sur le papier, un camailleux de verts et de gris. Drôlement content, Aristide, de retrouver les quatre points cardinaux. En direction de Florac, au volant de sa voiture hybride, il décide de s'arrêter à l'auberge du Vieux Pont. Il se dirige vers la porte du restaurant après avoir garé son véhicule et avoir remisé dans la boîte à gants la précieuse carte Michelin. Autre carte jalousement gardée secrète, celle d'une partie de belote âprement disputée par un cartel local de retraités aux rues de Mince-et-Venolles. Tandis que deux de leurs petits-fils sont dépliés devant eux, la carte que nul GPS ne remplacera jamais, la mystérieuse et prometteuse carte d'une île au trésor que Stevenson, si populaire dans les Cévennes, a dessinée pour faire rêver le voyageur. Sur la terrasse de l'auberge, les cartes postales impudiques sur leur présentoir offrent aux touristes les couleurs de leurs quatre saisons. Aristide s'installe à une petite table, consulte la carte que lui apporte la serveuse et se décide pour une truite aux amandes accompagnée d'un grenache local. La pendule marque presque 13 heures et Aristide se sent bien. À quoi bon descendre jusqu'à Montpellier? Pourquoi ne pas prolonger son séjour en Lozère? Daphné pourrait le rejoindre pour le 15 août. Sur le set de table en papier, il écrit son prénom. Il calligraphie le D majuscule. Le trait suit les méandres de ses pensées. Les courbes fluides deviennent une rivière de désir qui finit en cascade chantante sur les roches rondes. Mieux que le GPS, la carte routière ou celle au trésor, ce que dessine Aristide sur le set de papier dans cette auberge du vieux pont, c'est la carte du Tendre.
Le long du fleuve qui remonte par les rives de la rencontre, aux sources d'émerveillement, on voit dans le jour qui se lève s'ouvrir tout un pays de rêves, le tendre pays des amants. On part avec le cœur qui tremble du bonheur de partir ensemble, sans savoir ce qui nous attend. Ainsi commence le voyage, semé d'écueils et de mirages, de l'amour et de ses tourments. Quelques torrents de médisance viennent déchirer le silence, essayant de tout emporter. Et puis on risque le naufrage lorsque le vent vous mène au large des îles d'infidélité. Plus loin le courant vous emporte vers les rochers de la discorde et du mal à se supporter. Enfin la terre se dénude, c'est le désert de l'habitude. L'ennui a tout dévasté. Quand la route paraît trop longue, il y a l'escale du mensonge, l'auberge de la jalousie. On y déjeune de rancune et l'on s'enivre d'amertume. L'orgueil vous y tient compagnie, mais quand tout semble à la dérive, le fleuve roule son eau vive et l'on repart à l'infini, où l'on découvre au bord du Tendre le jardin où l'on peut s'étendre, la terre promise de l'oubli. L'oubli. L'oubli.
La carte du tendre Georges Moustaki, vous l'aviez reconnue. Le moment est venu d'ouvrir les grilles de lecture de Dominique Scandella, aujourd'hui avec Olivier de Serres. C'est dans la continuité du personnage dont il nous avait parlé la semaine dernière, c'était Arthur Young. Olivier de Serres, un agronome d'une étonnante modernité.
Olivier de Serres est né en 1539 à Villeneuve-de-Berg, dans le Vivarais. Il y passera toute sa vie. Il était issu d'une famille d'aristocrates huguenots qui avait fait fortune dans le commerce des draps. Orphelin très jeune, il acquit à 18 ans une propriété d'une centaine d'hectares, le domaine de Pradel, dont il entreprend de faire une exploitation modèle. Passionné d'agriculture, ce fut l'œuvre à laquelle il consacra toute sa vie. Il avait lu tous les traités d'agronomie existants, dont Pline et Columelle, qui avaient déjà développé à l'époque romaine une science agricole assez sophistiquée. Olivier de Serres, seigneur de Pradel, tout en collectant les savoirs anciens, expérimenta beaucoup lui-même et devint un expert en botanique et en naturalisme. Tout ce qu'il avait appris, il le consigna dans un livre, Le théâtre d'agriculture et ménage des champs, qui parut en 1600 après la fin des guerres de religion auxquelles Olivier de Serres avait activement pris part. Son ouvrage connut dès sa parution un grand succès. Le théâtre d'agriculture, qu'Olivier de Serres avait dédié au roi, devint le livre de chevet d'Henri IV, qui s'en faisait lire chaque soir quelques pages. Tous deux étaient également attachés au progrès de l'agriculture. Olivier de Serres est un grand connaisseur et un amoureux de la nature, mais également un extraordinaire pédagogue. Ses descriptions sont si claires et détaillées qu'on pourrait aisément reproduire ses réalisations. Le château du domaine de Pradel a été détruit après la mort d'Olivier de Serres sur ordre de Richelieu, mais le site abrite encore aujourd'hui un lycée agricole. Une équipe d'archéobotanistes et d'agronomes s'efforce d'y reconstituer certaines parties de l'exploitation. La lecture du théâtre d'agriculture laisse une impression d'incroyable modernité. En effet, la convergence entre les méthodes d'Olivier de Serres et les avancées actuelles de la recherche en agrobiologie sont saisissantes. Cela met en évidence le fait que l'agriculture moderne, développée depuis les années 40, a totalement occulté un savoir paysan lentement accumulé depuis le néolithique et que l'on redécouvre aujourd'hui. Un petit exemple parmi un grand nombre d'autres. Le chercheur et grand spécialiste mondial des vers de terre, Marcel Boucher, démontre dans son ouvrage « Des vers de terre et des hommes » à quel point les vers de terre sont importants en tant que fabricants de la fertilité des sols. Aujourd'hui, les sols cultivés en agro-industrie sont des sols morts et stériles, d'où les vers de terre et toute vie microbienne ont disparu. Cette importance des vers de terre était déjà une évidence pour Olivier de Serres, qui nous explique, sur plusieurs pages, comment construire de véritables usines de fabrication de vers de terre qui devaient servir à ensemencer les sols. Au XVIe siècle, Olivier de Serres inventait déjà la lombriculture. Mais Olivier de Serres est aussi et surtout un écrivain majeur du XVIe siècle. Son talent littéraire n'a rien à envier à celui de Montaigne et de Rabelais. Au bout de quelques pages, quand on s'est habitué à la langue et à l'écriture de l'époque, c'est un immense bonheur de lecture qui s'offre à nous. Ses phrases, tout en gardant toujours un côté pratique et proche de la nature, sont poétiques, imagées, fleuries, malicieuses et pleines d'un éternel bon sens terrien. Le théâtre d'agriculture est également un trésor pour les philologues et les linguistes, car on y trouve un grand nombre de mots dont c'est la première occurrence en français. Si le théâtre d'agriculture a connu de nombreuses rééditions jusqu'à la fin du XIXe siècle, il avait depuis totalement disparu des librairies et était devenu introuvable. La seule édition que j'avais pu dénicher, datant de 1941, était un recueil de pages choisies, transcrites en français moderne et préfacées par le maréchal Pétain. On doit donc remercier les éditions Actes Sud d'avoir confié à l'ethnobotaniste Pierre Liotagui le soin d'en établir une nouvelle édition qui est parue en 2001.
sacré géranium. Tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon. Vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous.
Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment à Johan, Hélène, Hervé et donc Dominique que nous venons d'entendre. On se retrouve la semaine prochaine et quand vous voulez sur balado-gazette.fr. Et on se dit au revoir avec Dick Ingarn, Sacré Géranium.
Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Ouh, un petit tombe à l'eau.